merci beaucoup Julien et merci à vous tous de venir ce soir pour cette conférence. C'est l'occasion enfin, pour moi de venir à Grenoble, c'est assez exceptionnel. Je vis à New York.
Merci pour le placement.
Je vis à New York, j'ai sorti un livre l'année dernière. Qui s'appelle Winning the War on Cancer, The Epic Journey Towards a Natural Cure, qui est, fait référence en fait à l'histoire que nous avons vécue, ma famille et moi, et le titre est un petit clin d'œil à Winning the War on Cancer, qui est le cri de ralliement que Nixon avait lancé en 1971 quand il a ouvert les vannes des budgets fédéraux pour la guerre contre le cancer qu'il pensait à l'époque qu'on pouvait gagner dans les 20 ans. Puis le livre a été très bien reçu aux États-Unis, il a reçu plusieurs prix, j'en suis très fière, et l'année dernière il est sorti en France sous le titre « Gagner la lutte contre le cancer, la découverte dont la République n'a pas voulu ». Et là évidemment le petit clin d'œil il n'est pas à Nixon, mais il est à François Mitterrand et à le fait que les découvertes qui ont permis à François Mitterrand de finir son deuxième mandat ont été ensuite détruites par la République. Et donc c'est un petit peu cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps en une soirée de vous raconter tout ce qui est dans le livre, alors je vais me concentrer sur ce que je pense est le plus important pour vous. C'est-à-dire comprendre les produits Belzhansky et comprendre comment les utiliser et avoir l'ensemble des découvertes scientifiques qui sont venues depuis les 20 dernières années confirmer les travaux de mon père. Parce que je pense que pour vous, c'est ça qui est le plus utile. Dans le livre, si vous êtes intéressé, il y aura toute l'histoire, je crois. Je tiens à dire que tous mes droits d'auteur vont à la Fondation Belzhansky pour la poursuite de la recherche. Je ne gagne pas d'argent sur cette histoire. Elle fait partie maintenant de tout ce que j'ai lancé enfin, pour que ça existe dans l'univers. Ça ne m'appartient plus et ça... Ça sert maintenant la vente des livres. Quand vous achetez un livre, vous faites une bonne action puisque vous aidez à la poursuite de cette recherche tout à fait particulière sur le cancer avec des produits naturels. Et encore, je vais revenir sur l'importance de cette recherche tout à fait libre. Alors, vous êtes là parce que vous avez entendu parler de Mirko Belzhansky, j'imagine, sinon vous n'auriez pas bravé l'hiver et le coronavirus pour venir. Donc, pourquoi Mirko Belzhansky? Et qui était Mirko Belzhansky? Bien, Mirko Belzhansky, mon père, était directeur de recherche à l'Institut Pasteur et il était considéré comme l'un des premiers biologistes verts, dans la mesure où il était l'un des premiers à s'intéresser à l'environnement dans les années 70-80, qui étaient les grandes glorieuses, hein, les trois glorieuses où on polluait sans regarder derrière soi sur ce qu'on faisait. Et il était un des premiers à tirer la sonnette d'alarme et en disant que dans toutes ces toxines environnementales qui étaient créées à l'époque et relâchées dans l'atmosphère sans les tester pour savoir si elles étaient dangereuses ou pas, eh bien, il y en avait beaucoup qui induisait une déstabilisation cumulative et progressive de notre ADN et que c'était la cause du cancer. À l'époque, tout le monde, l'establishment, pensait que le cancer ne pouvait résulter que d'une mutation. Et c'est une différence qui est fondamentale sur la façon dont on conçoit le cancer et ensuite comment est-ce qu'on peut traiter le cancer. Donc, traditionnellement, et quand j'entends par traditionnellement, je parle des grands ponts de l'Institut Pasteur, considérait que le cancer ne pouvait résister que d'une mutation au niveau d'un des nucléotides, qui sont les grains, en quelque sorte, qui constituent les rubans, les deux rubans de l'ADN qui sont joliment entrelacés. Et dans une cellule saine, sont toujours retenus entre eux par des liaisons hydrogène. Et Mirko Belzhansky a observé que, quelle que soit l'espèce, plante, animaux, humains, quand une cellule devient cancéreuse, les deux brins deviennent distendus au point qu'à un moment, les liaisons hydrogène cassent. Et quand elles sont cassées, et bien donc on a ces grandes boucles ouvertes, les enzymes de duplication de l'ADN qui sont à l'intérieur des boucles deviennent directement disponibles pour les enzymes de réplication. Et là, la machine s'emballe. Quand les hormones de duplication sont en face des sites de duplication, ça s'emballe, et c'est comme ça qu'on a des cellules cancéreuses qui se multiplient, qui font des tumeurs par rapport aux cellules saines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des mutations. À peu près 7-8% des cancers correspondent à des mutations. L'ensemble, plus de 90%, correspondent à une déstabilisation cumulative de l'ADN. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cancers. S'il n'y avait que des mutations, le nombre de cancers serait stable. Mais alors, une fois qu'il avait fait le lien entre déstabilisation de l'ADN et synthèse accrue de rapidité de l'ADN cancer, il avait pu faire un test pour voir si les substances allaient induire des cancers en induisant une synthèse accrue de l'ADN cancer. Et là, donc, vous avez, il a divisé, testé l'état produit, il les a divisés en quatre catégories. En un, vous avez les molécules qui ont un potentiel carcinogène. Et là, vous voyez, par exemple, nous avons le DMBA, qui est notre carcinogène de référence. Et vous voyez qu'il a induit une forte synthèse, rapidité de synthèse de l'ADN cancer, avec peu d'effet sur l'ADN sain, puisque c'est un phénomène progressif. Donc ça commence par une toute petite augmentation avant d'être une rapide augmentation ici avec l'ADN cancer. La vinblastine, c'est une chimiothérapie. À certaines doses, qu'est-ce qu'on voit? Elle se comporte comme notre cancérogène de référence. Il ne s'agit pas de la dose que vous donne l'oncologue. Mais à la fin du traitement, quand l'oncologue vous dit « c'est bon, on a fait toutes vos chimiothérapies, on ne voit plus rien, rentrer chez vous », votre corps va éliminer progressivement la chimiothérapie. Et là, vous risquez d'entrer dans cette zone-là, qui est la zone dangereuse, et qui prépare pour les métastases. Parce que la vinblastine, là, se comporte comme le DMBA. Et là, vous avez la testostérone. On en a tous et toutes de la testostérone. C'est normal, hein, à doses différentes, mais on en a toutes et tous. Seulement, à certaines doses non physiologiques, la testostérone peut se comporter comme un cancérogène. Et c'est pour ça que quand il y a un cancer avancé de la prostate, eh bien, souvent on propose une sorte de castration chimique pour éviter la testostérone. En deux, vous avez les produits au potentiel neutre. Vous avez par exemple dans cette catégorie l'insuline, l'acide salicylique, etc. Peu ou pas d'effet ni sur l'ADN sain, ni sur l'ADN cancer. En trois, vous avez les produits à potentiel toxique. L'un d'eux, par exemple, le paraquat. C'est un défolium. Il était dans l'agent orange au Vietnam. Ça détruit, ici, ça inhibe la synthèse de l'ADN cancer, c'est très bien, mais aussi l'ADN sain. S'il n'y a plus de synthèse de l'ADN, il n'y a plus de vie possible, il n'y a plus de duplication des cellules possible. Donc, c'est pas bon. Et ici, vous avez le parfait dessin de ce qu'est un parfait anticancéreux sélectif. Il inhibe sélectivement l'ADN cancer et n'a pas d'effet sur l'ADN sain. Et la question était, est-ce qu'il existe une telle substance dans la nature? Et il a eu la chance de non pas en trouver une, mais deux. Le Pau Pereira, qui vient d'Amérique du Sud, et qui a un extrait qui s'appelle la Flavopérérée dans l'Écosse. Et le Rodolphia vomitoria, qui vient d'Afrique et dont on extrait l'alstonine. Et vous voyez que l'alstonine ressemble à la flavopérérine, mais la molécule est un petit peu plus grosse. Mais les deux ont un nitrogène positif et un positivement chargé et un autre négativement chargé. Et Mirko Bajansi pensait que c'était la clé de la sélectivité d'action de ces deux molécules. Mais alors, si ça reconnaît sélectivement l'ADN cancer, ça va aller détruire cet ADN cancer, en bloquer la duplication, ou que ce soit. Donc ça n'a pas d'importance si c'est un foie, une rate, un rein, une prostate, une vessie, vous me suivez? Ça n'a pas d'importance si c'est un homme ou une femme. On a un ADN de la tête aux pieds. Ça va reconnaître ces grosses boucles. Alors, quand il était à l'Institut Pasteur, Mirko Bajansi a testé sur 16 lignées cancéreuses. Son Pao Pereira, ici en bleu, et son Rodolphia vomitoria. Et vous voyez ici sur les cellules du foie, cancéreuses du foie, on a à chaque fois une très jolie inhibition avec les deux extraits de ces cellules cancéreuses. Ici, nous avons cancer de la thyroïde et de nouveau une très jolie inhibition avec les deux extraits. Et ici, cancer du sein et toujours une très jolie inhibition. Alors maintenant, si ça reconnaît sélectivement les cellules cancéreuses, ça ne va pas toucher les cellules saines. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici une cellule saine du cerveau, l'astrocyte, et vous voyez que l'extrait de Pao Pereira, qui se trouve être naturellement fluorescent, reste à l'extérieur de la cellule saine et ne la pénètre pas. Par contre, ici, nous avons des cellules cancéreuses, toujours du cerveau, des cellules de glioblastome, et vous voyez que la lumière, et donc le produit, a pénétré le nucléus et le nucléolaire de ces cellules cancéreuses. Et c'est encore plus visible en lumière UV. Vous voyez, le produit ne va nulle part ailleurs, il se concentre sur ces deux cellules cancéreuses. Mais alors, si ça va dire uniquement sur les cellules cancéreuses et ça va nulle part ailleurs, ça veut dire que si vous n'avez pas de cellules cancéreuses, le produit, vous allez l'éliminer en quelques heures. Pas de toxicité, pas d'effet secondaire. Et comme vous me regardez avec un air très sage, et j'ai un petit bonus pour vous. Vous êtes tous un petit peu concernés avec le coronavirus ces jours-ci. Eh bien, il se trouve que le Pao Pereira a aussi un potentiel antiviral à large spectre. Et mes parents l'avaient testé sur différents types de virus, dont l'herpès, la grippe, etc. Et le seul essai clinique qu'ils aient pu faire en France, c'était pour tester le Pao Pereira sur le virus du sida. Et ça avait été fait à l'hôpital de la Péronie, à Montpellier. Les gens avaient été testés, les gens séropositifs avaient été testés pendant 12 mois. Et pendant les 12 mois, il en était ressorti que non seulement personne n'avait développé un sida déclaré, mais les gens avaient une meilleure immunité à la fin qu'au début de l'étude, ce qui était quand même exceptionnel pour les séropositifs. Ça n'a intéressé personne. Personne, alors qu'on s'était dans les années fin 80-90 et qu'on cherchait à l'époque des solutions, l'étude a été publiée et oubliée. Enfin, ça n'a absolument pas intéressé le gouvernement français. Ceci dit, vous, ça peut vous intéresser comme information. Et n'oubliez pas que si vous avez un virus, vous voulez éviter les aliments
qui sont riches en arginine, donc le chocolat, la caféine, l'avoine et le soja. En revanche, vous voulez manger des aliments riches en lysine comme le poisson, l'amarante, le sarrasin, le quinoa et la vache fermentée. Ça, c'était ma petite parenthèse virus transformé.
Donc, je vous ai parlé de deux extraits, le Pao Pereira et le Ravolfia vomitoria, et vous avez vu qu'ils ont une activité anticancéreuse sélective. Maintenant, nous allons parler d'autre chose, des fragments d'ARN. Qu'est-ce que c'est que ces petits fragments d'ARN? Mirko Belzhansky s'était dit, quand les gens vont à l'hôpital pour subir des chimiothérapies, les chimiothérapies qui ne sont pas sélectives vont attaquer les cellules cancéreuses, mais aussi vont détruire grand nombre de cellules non cancéreuses, y compris des cellules sanguines et des globules blancs et des plaquettes. Et donc, comment aider les gens qui ont une perte de globules blancs et de plaquettes à remonter la pente? Eh bien, il s'est dit, dans le corps, naturellement, comment est-ce que nous fabriquons globules blancs et plaquettes? Avec la moelle osseuse. Donc, comment booster la moelle osseuse pour qu'elle fabrique naturellement plus de globules blancs et de plaquettes? Eh bien, en aidant l'ADN de la moelle osseuse à faire son travail plus vite. Et il a eu l'idée de créer des petits fragments d'ARN qui vont être spécifiques de l'ADN, synthèse de l'ADN de moelle osseuse, et aider la moelle osseuse à faire son travail. Ces petits fragments sont des fragments d'Escherichia coli K12. C'est important. Autre chose que Escherichia coli K12, y compris, il y a certaines personnes qui ont essayé de faire avec de la levure de boulanger, c'est moins cher, c'est plus facile à s'en procurer, ça ne marche pas. C'est très important de prendre Escherichia coli K12. N'ayez pas peur du mot Escherichia coli. Escherichia coli K12, vous en avez tous dans votre intestin ce soir, là vous êtes tous à me regarder, vous en avez tous Escherichia coli. Ce n'est pas mutagène, ce n'est pas pathogène, et quand on fait la préparation d'ARN, on retire tout ce qui est protéines, tout ce qui est génome, il ne reste plus que des petits fragments d'ARN coupés et purifiés. Alors, une fois qu'il avait mis au point ces petits fragments d'ARN, il les a donnés à des lapins, deux groupes de lapins à qui on donne de la chimiothérapie très très, très forte. À l'époque, la cyclophosphamide. Le premier groupe témoin de lapin, au bout de 10 jours, sont tous morts. Mais les lapins à qui on a donné des fragments d'ARN, à chaque fois qu'on leur donne une chimiothérapie, nombre ici de leucocytes s'effondre. On leur donne des fragments d'ARN et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte à chaque fois, après chaque chimiothérapie. Et vous voyez qu'au jour 60, et ben, tous les lapins étaient encore vivants. Donc on a vu deux anticancéreux, on a vu un produit qui aide à garder les globules blancs et les plaquettes. Et maintenant on va parler du ginkgo biloba. Vous pensez que vous connaissez le ginkgo biloba? Vous oubliez tout ce que vous savez. Et ici nous parlons de ginkgo biloba à feuilles dorées. Quand la feuille devient dorée à l'automne, c'est que la chimie de la feuille est modifiée. Et donc, les alcaloïdes qui sont dans la feuille seront différents. Et puis, on a un procédé d'extraction qui est totalement différent, sans solvant. Et donc, on a un produit à la fin qui est complètement différent. Cet extrait de ginkgo ne va pas aider pour l'Alzheimer, la circulation, etc. Non. Là, on est dans la réparation des tissus et la régulation des transaminases du foie. Qu'est-ce que c'est que ces transaminases et pourquoi est-ce que c'est important? Quand nous avons un cancer, quel qu'il soit, les enzymes du foie s'affolent. Et les RNases qui vont réguler les transaminases, eh bien, elles
diminue. Tandis que quand on donne du ginkgo, eh bien ici, ça remonte. Donc là, ici, vous voyez un cancer du sein qui n'a pas donné de ginkgo doré. Et là, quand on donne du ginkgo doré à ce cancer du pancréas, ça remonte. Et quand on donne à cette leucémie myéloïde aiguë, eh bien ça remonte et ça redevient normal. Bénéfice, tout particulièrement au niveau de la peau. Quand la peau reçoit des radiations, eh bien, c'est un petit peu la même chose qui se passe. La couche adipeuse disparaît et nous avons une fibrose radique qui s'installe. C'est-à-dire que comme il y a la couche adipeuse a disparu, ça devient comme cartonneux et ça, les couches de tissu ne glissent plus bien entre elles. Et la peau est très très riche dans ces aminases et ribonucléases. Et donc vous voyez qu'au niveau de la peau irradiée, eh bien, ça se passe exactement comme là au niveau du foie d'intensité. Et pareil, quand on donne du ginkgo, eh bien, ça remonte au niveau local de la peau. Donc, ça aide très, très bien à protéger contre les fibroses qui peuvent résulter des radiations. Donc, voilà, ça y est. Vous savez tout sur les produits Belchanski. Vous avez entendu parler, je vous ai présenté les quatre produits. PAO, Provolfia, les fragments d'ARN et le ginkgo biloba. C'est ça. C'est finalement très très simple. Il n'y a pas de toxicité. Il n'y a pas d'effet secondaire. Dans les années 80-90, quand mon père donnait ses conférences devant l'État de médecin, ça leur plaisait beaucoup. Parce que ça allait marcher sur les patients, quel que soit le cancer, et sans danger. Là, mon père a donné beaucoup de conférences, et beaucoup de médecins ont commencé à utiliser les produits. Et puis un jour, François Mitterrand a été officiellement diagnostiqué avec un cancer avancé de la prostate. C'était le début de son deuxième mandat, et le mandat à l'époque était 7 ans. Il était malade depuis son premier mandat, mais ça s'était gardé secret. Alors là, il est tellement malade qu'on décide de faire venir un chirurgien qui ouvre, qui constate que le cancer est généralisé et qui dit « le président ne finira pas son deuxième mandat, il faut le mettre sous morphine parce que c'est la seule chose à faire ». Et puis, on va préparer le pays pour des élections anticipées. Et je pense que vous souvenez tous que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous n'êtes pas vous n'étiez pas né, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Mitterrand avait une maîtresse. Et la maîtresse connaissait un médecin qui avait très bonne réputation avec le cancer de la prostate parce qu'il utilisait les produits Belchanski. Et donc, Mitterrand commence à prendre les produits Belchanski. Et il commence à aller de mieux en mieux. Et puis dire qu'il ne veut plus de la morphine, et puis il demande qui a signé ça, et puis il dit mais qui a autorisé ça. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. Quant à ceux qui avaient prévu des élections anticipées, ben, elle a dû avoir le temps de s'effondrer dans les sondages. Chirac monte dans les sondages. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. Mitterrand va de mieux en mieux, 1994 il est comme ça, 95 il est comme ça, la presse titre c'est un miracle. Janvier 96, Mitterrand décide que, enfin comme vous le savez en 80, donc 95, il a quitté l'Élysée, la rose à la main, il n'était pas du tout en petite voiture roulante, etc. Ça se passait très bien. Mais une fois qu'il a quitté l'Élysée, il a décidé qu'il avait donné, que ça suffisait comme ça, et il a décidé d'arrêter tout traitement. Et en janvier 96, il a choisi l'euthanasie pour mettre fin à ses jours. Et très exactement 9 mois après le décès de Mitterrand, le GIGN
l'armée est envoyée à l'institut à Saint-Prin, où mon père avait, dans l'Isère, ici, où mon père avait son laboratoire. C'était le seul laboratoire de recherche indépendant en France sur le cancer, pour le saccager et tout fermer. Ils sont arrivés et avec une mitrailleuse, maître chien, un hélicoptère qui tournait autour, Gilda, qui faisait son assistante, était là et a vécu ça elle-même, elle a même été mise en garde à vue. Ils ont évidemment arrêté mon père, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont débranché le congélateur dans lequel il y avait toute la banque de données de tissus d'ADN qui permettait de faire l'oncotest. Jamais pu être refait depuis, on n'a jamais pu reconstituer des petits bouts de cancer de sein du foie, des petits bouts de cancer de tissu cancéreux du foie, des petits bouts de sein de cancer du sein, des petits bouts de sein. C'était des années et des années d'amitié avec des chirurgiens disparus. C'était, vrai, c'était véritablement les barbares qui ont mis le feu à la bibliothèque d'Alexandre. Ils ont mis en garde à vue et ensuite sous contrôle judiciaire tout le monde. Les parents, les docteurs, les pharmaciens qui travaillaient avec. Ils sont allés chez les gens qui avaient des produits, prendre des produits sur les tables de nuit et il ne restait plus rien. Oui.
Je veux savoir qui a déclenché le thérapeute du GDN.
Ah ben ça, je n'ai pas eu d'ordre signé, ça, c'est secret d'État. C'est le ministère de l'Intérieur, oui. Enfin, le GGN dépend du ministère de l'Intérieur, enfin donc c'est.
Est-ce qu'il y a un mandat, une pièce écrite de...
Il y a eu des pièces écrites.
Quel motif?
Alors, moi j'étais avocate. J'étais avocate, je ne suis pas scientifique de formation. Je suis arrière-petite-fille et fille de scientifique. Et j'avais dit, la malédiction s'arrête là. On arrête. Et j'avais décidé de faire mon droit. J'ai fait mon droit, je suis devenue avocate au barreau de Paris. Et j'étais partie à New York pour travailler dans un cabinet américain, ça paraissait prestigieux, et je pensais y rester 2 ans, c'était bien pour mon CV, et j'allais rentrer en France. Et puis, le 9 octobre 1996, je m'ennuyais un petit peu de ma famille, j'appelais régulièrement en France, j'appelais mon père, et j'appelle et ça sonne, et ça sonne, et ça sonne. Et mon père était un passionné de la recherche, il était tout le temps dans son laboratoire. Et c'est bizarre, ça sonne tout le temps, comme ça dans le vide, je vais appeler à la maison. Et là, j'ai un officier de police judiciaire qui me dit, vous ne pouvez pas parler à votre mère, elle sera en garde à vue. Alors je dis, je suis son avocate, passez-moi ma cliente. Je vous donne 3 minutes. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait toute une liste de choses qui étaient reprochées à mes parents. Donc, tromperie sur la marchandise, qui évidemment, tout de suite dans ma tête, a dit, là, contrôle judiciaire, il faut leur trouver un avocat, il faut s'occuper de leur défense. C'est comme ça que moi, je suis tombée dedans, par l'aspect pénal. Et puis, j'ai découvert ce genre de choses. Même si je ne voulais pas être impliquée en me disant non, je ne serai pas scientifique, des milliers de gens qui prennent les rues de Paris et autres villes de province en demandant les produits Belgianski efficaces et non toxiques. Les Français, je sais qu'ils adorent faire des démonstrations et des manifs, etc. Mais toujours contre, jamais pour. Là, c'est la première fois, c'est la seule fois où j'ai vu des manifs pour quelque chose. Et là, je me suis dit, mais ça correspond à un besoin. Ce qui est fait aussi, ce qui est fait aussi, le gouvernement français, c'est quand ils ont arrêté mon père, ils ont envoyé une équipe de gens qui sont arrivés habillés comme en scaphandrier, véritablement, comme pour aller sur la Lune, et ils ont vaporisé le laboratoire en disant on cherche du plutonium, c'était ridicule, mon père ne travaillait pas avec de la radioactivité. Et ils ont vaporisé la pièce, et ensuite ils ont dit à mon père, on ne peut pas vous déférer devant le juge d'instruction ce soir, c'est trop tard pour prendre le train, on ira demain, vous restez là. Et quand j'ai eu affaire au dossier, accès au dossier pénal, j'ai jamais vu, j'y ai pas trouvé de vaporisation. Donc j'ai des témoins d'une vaporisation avec des produits chimiques qui n'a aucune existence légale. Et deux mois après, mon père a déclenché une leucémie myéloïdique. Et probablement le juge savait très bien que mon père allait avoir une leucémie myéloïdique, vu qu'il ne pardonne pas les annales de 74 ans, parce qu'il ne lui a pas accordé de date d'audience. Et on faisait des demandes et des demandes et des demandes, et il n'y avait pas de date d'audience. Alors on est allé dans la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas mettre quelqu'un en garde à vue, le mettre sous contrôle judiciaire, lui prendre son passeport, lui interdire de continuer les recherches, lui interdire de participer dans des colloques, lui pourrir sa vie et lui ôter la vie, et même pas lui donner une date d'audience. Alors on a gagné, évidemment. Je veux dire que la France a été absolument minable dans la façon dont ils se sont comportés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Gagner dans l'affaire Belgian-Cy contre France a été juridiquement extrêmement facile. Ils n'avaient pas le moindre argument. Ça a mis 4 ans parce qu'ils ont fait durer la procédure aussi longtemps qu'ils ont pu. On a gagné à l'unanimité. Ce n'était pas le plus
important.
Accusé de quoi? Non, il n'y a jamais, ils sont responsables mais pas coupables.
C'est la France, c'est la France.
Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom.
Quand vous dites que vous avez gagné, vous avez gagné quoi?
Donc, on a gagné, bon bah, d'abord il y a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, disant que la France n'a pas respecté le texte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et donnant une petite somme symbolique à ma mère. La cour c'est toujours, ça se termine toujours avec un petit peu d'argent, les affaires de justice. On ne peut pas rendre la vie aux gens, on ne peut rien faire d'autre.
Non, mais j'entends sur le plan de la production des produits.
Non, rien. Ce n'était pas d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme, vous pouvez la saisir que sur le fondement de la Déclaration européenne des droits de l'homme. Elle ne va pas juger d'une affaire de produits, etc. Elle a simplement reconnu que la France avait violé les droits de mon père en lui accordant pas d'audience pendant les 2 ans où il a réussi à survivre et en le tenant sous contrôle judiciaire en refusant toute expertise, tout délai, etc. Le plus important quand même pour mon père, c'était pas, d'ailleurs il n'a pas vu, il est décédé avant que la Cour européenne rende cet arrêt, c'était que le sens de son travail, sa vie de recherche, ne disparaisse pas. Et en même temps que toutes ces histoires, enfin, de saisie, d'arrêt, de maladies, de cours européennes, etc., arrivaient, le nombre de cancers n'arrête pas d'augmenter en même temps. Nous avons maintenant un homme sur deux et 2 femmes sur 3 qui risquent d'être atteintes du cancer durant leur vie. Et le nombre de cancers ne va qu'augmenter d'après
les instituts de recherche, le World Health Organization, qui prévoit que le nombre de cancers va doubler entre 2012 et 2030 et le nombre de décès par cancer va en fait augmenter de 60%.
Et la seule façon qui m'est apparue de sauver ce qui pouvait être sauvable et donner un sens à toute cette tragédie qui était arrivée en France, m'a semblé être de créer une fondation à New York pour continuer la recherche et valider ces travaux qui semblaient, du moins ça me semblait en tant que non scientifique, être une solution pour beaucoup de gens, puisqu'ils se trouvaient la rue en demandant les produits de l'agence, ce qu'ils avaient vécu dans leur chair. Alors, j'ai créé cette fondation en 1999 à New York, et la mission, c'est de continuer la recherche et de confirmer ces travaux sur les molécules naturelles. Et comme il n'y avait plus de laboratoire, eh bien, c'était fait avec des partenariats, avec des grandes universités américaines. Et ce que je voulais, c'était une confirmation systématique. En tant qu'avocat, je voulais un dossier béton. Et donc, toutes ces années, depuis 25 ans, c'était à propos de la confirmation, la mise à jour des recherches. Alors, la première chose que qu'on voulait voir, c'était si effectivement le Pau Pereira avait un large spectre d'activités anticancéreuses. Est-ce que véritablement ça allait? Parce que la science, c'est tout. C'est de la reproductibilité. Donc, est-ce qu'on allait pouvoir avoir un large spectre d'activités contre des tas de cancers? Est-ce qu'on allait être capable de revoir ça? Alors, on ne peut pas, aux États-Unis, il y a la même chose en Europe, faire des essais cliniques avec des compléments alimentaires. Ce n'est pas possible. Les compléments alimentaires se sont faits pour aider les gens en bonne santé à rester en bonne santé. Mais si vous traitez une maladie avec un complément alimentaire, vous donnez un médicament. Et un médicament non autorisé. C'est-à-dire que vous n'êtes plus disponible. Hein? Exactement. Donc, on veut rester en complément alimentaire. On va s'accrocher à notre statut de complément alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé d'abord avec un laboratoire qui s'appelle RGCC. Ils sont en Grèce. La tête de ce laboratoire est à Athènes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé une membrane qui permet de filtrer et de séparer les cellules cancéreuses et les cellules saines. Alors voilà comment ça se passe. Le médecin, vous avez un diagnostic de cancer, le médecin prend du sang, l'envoie au laboratoire, ça va être filtré, et les cellules cancéreuses vont pouvoir être testées contre une batterie de chimiothérapie et autres produits anticancéreux. Alors moi, quand j'ai entendu parler d'eux dans un salon, je leur ai fait une cour éhontée. Je voulais absolument que nos produits soient dans leur batterie de test. Et au début, ils m'ont dit non, on ne prend pas les produits naturels, c'est jamais bien standardisé, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, etc. J'ai dit non, ceux-là, ils sont bien standardisés. Faites-moi confiance et faites au moins un essai. Et on y est maintenant, systématiquement, dans toute leur batterie de test. Alors, on a travaillé aussi, parce que maintenant, on a des médecins, on travaille avec 46 pays. Et on travaille beaucoup avec le Japon. Et au Japon, ils sont très, très friands de ce test. Parce que les Japonais, ils ne veulent pas prendre de risque avec à l'hôpital d'avoir une chimiothérapie qui ne va pas être efficace contre leurs propres cellules cancéreuses. Ils veulent être sûrs que s'ils prennent une chimiothérapie, ça va vraiment détruire leurs cellules cancéreuses. Alors là, nous avons ce médecin japonais, il envoie le sang donc, au laboratoire de tous ses patients et il reçoit ensuite un rapport. Donc là, ça vient de RGCC. Ils ont mis du blanc sur le nom
du patient. Et il confirme, on voit mal là ici, que Oncobal, ici c'est le mélange de Paudrebol et Ginkgo, induit l'apoptose des cellules cancéreuses. L'apoptose, c'est la mort des cellules cancéreuses. Donc ici, nous avons on ne voit vraiment rien. Peut-être que ovarian carcinoma stage 2. Ensuite, on a un autre, pancréatique carcinoma et de nouveau apoptose. Et ici, nous avons stomach carcinoma stage 4 et l'apoptose. Donc, vous avez compris comment ça marche. Et donc, ce médecin japonais nous a montré comme ça des rapports de ce laboratoire montrant que ça marchait au stade ovarien 2 et 4, cancer du pancréas, cancer de l'estomac stade 4, du poumon, de l'utérus, du sein, de la glande parotide stade 4, du côlon stade 3, de l'intestin grêle stade 4. Donc, ce n'est pas un essai clinique standardisé, mais c'est le plus proche qu'on pouvait avoir provenant d'un laboratoire extérieur, nous confirmant que ça marchait sur différents types de cancer. Ensuite, est-ce que la question était est-ce que ça va marcher à différents stades de cancer? Donc là, on a pu travailler avec différentes grandes universités. Et la plus récente des publications qui date de cette année, c'est pour ça que je me suis fait un plaisir de vous l'apporter, montre que le paroplérin marche sur la hyperplasie bénigne de la prostate. L'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est un problème extrêmement courant pour les messieurs, c'est l'inflammation de la prostate qui arrive presque à tous les hommes à partir d'un certain âge. Et ça se traduit en une prostate qui est plus grosse, qui prend de la place, qui presse sur la vessie, un besoin d'uriner plus fréquemment et immédiatement. Est-ce que vous avez, vous, déjà une prostate de rat? Nouveauté, en exclusivité. Voici une prostate de rat taille normale. Une prostate de rat enflammée. Il a une hyperplasie bénigne de la prostate, celui-là. Vous lui donnez du finestéride, qui est le médicament officiel pour la prostate, et vous voyez que la prostate revient à peu près au niveau normal. Vous lui donnez du paupérera, vous avez le même résultat qu'avec le finestéride. Alors, pourquoi prendre l'un plutôt que l'autre? Deux choses. D'abord, la différence ici, c'est les spermatozoïdes. Avec le finastéride, il n'y en a pratiquement plus. Statistiquement, on a un effondrement par rapport à notre témoin. Et avec le paupérira, les spermatozoïdes n'ont pas disparu. Et le finastéride vient avec un ensemble d'effets secondaires qui nous sont transmis par Google, donc je vous laisse lire et apprécier. Évidemment, nous n'avons rien de tout ça avec le paupérima. Oui, tout ça. Donc ça, c'est pour, il n'y a pas de cancer, c'est l'inflammation de la prostate. C'est très, très important parce que l'inflammation, c'est la source de beaucoup de problèmes. Et ce n'est pas cette inflammation dont on a maintenant le mécanisme d'action pour lutter contre l'inflammation, ce n'est pas spécifique de la prostate. C'est un inflammatoire, un anti-inflammatoire à large spectre. On a un mécanisme d'action. Alors, maintenant, cancer de la prostate. Ça, cette recherche a été faite à Columbia University. Et avec le paupérima et le rovolfia séparément. Et ils ont conclu que les deux extraits avaient bien un pouvoir anticancéreux
et qu'ils avaient deux mécanismes d'action séparés. Donc, ça veut dire qu'on a une synergie possible entre les deux et un bénéfice à les utiliser tous les deux. Et puis, quid du cancer avancé de la prostate? Celui qui ne répond plus à l'hormonothérapie. Eh bien, notre petit Paolo Pereira, il va être efficace même contre ces cellules avancées, très agressives, du cancer de la prostate. Ça marche à tous les cellules. Maintenant, la dernière frontière, les cellules souches du cancer. Vous savez ce que c'est? Cellules souches du cancer. Les cellules souches du cancer, ce sont celles qui résistent à la chimiothérapie. Toutes les cellules cancéreuses ne sont pas créées égales. Il y a des cellules cancéreuses normales, et puis il y a les cellules cancéreuses qui sont les plus agressives et qui vont être capables de résister à la chimio et de voyager et de se remultiplier en cellules cancéreuses normales et cellules souches et de vous faire une métastase. Et tant qu'on n'a pas réglé le problème des cellules souches, on n'a pas réglé définitivement le problème du cancer. Alors, notre petit Pao et notre Oval qui sont capables de faire tant de choses, est-ce qu'ils vont être aussi capables de s'attaquer aux cellules souches du cancer? Eh bien, oui! Ici, le miracle apparaît entre 50 et 100 microgrammes par millilitre. Et là aussi, on a compté les sphéroïdes parce qu'elles ont une forme spécifique, ces cellules souches du cancer. Et elles sont toutes détruites, sans toxicité, sans effet secondaire. Est-ce qu'on a eu de la chance? Nous voyons ici, sur les cellules du pancréas, et de nouveau, même miracle. Tout disparaît. Alors, est-ce que ça va marcher in vivo? Parce que là, c'est in vitro. On compte les cellules des thyroïdes. Ça va marcher, ça va pas marcher, ça va marcher, ça va pas marcher. Ça marche. Ça marche. Et deux belles publications faites par Kansas University Medical Center, ça marche. Sur ce. Donc, on a tous les stades de cancer, de l'inflammation jusqu'aux cellules souches du cancer, sans toxicité et sans effet secondaire. Alors maintenant, oui.
Alors, ça agit sur les cellules souches et les cellules qui ne sont pas salées.
Oui, ça c'était la publication d'avant. Si vous avez vu le cancer avancé de la prostate métastasée. C'est là aussi on les ratatine. On les ratatine toutes. Alors la question aussi était les synergies avec les chimiothérapies. Du temps de mon père, il avait déjà confirmé ça avec les chimios de l'époque, qui étaient les cyclophosphamides, les 5-FU, etc. Mais les chimios ont changé. Alors 20 ans après, c'était à refaire. Et donc, on a ici, toujours à Kansas University Medical Center. Regardez le Paolo Pereira, le cancer de l'ovaire et le carboplatine. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, le Paolo Pereira utilisé seul permet de supprimer la croissance tumorale de 79% et diminuer le volume de l'acide de 55%. Vous savez ce que c'est l'acide? L'acide, c'est le liquide qui se met dans l'abdomen et qui gonfle l'abdomen et c'est plein de cellules cancéreuses et ça complique énormément le diagnostic et c'est un effet pronostic, c'est une complication courante du cancer de l'ovaire. Et donc là, quand on combine le Paolo Pereira et le carboplatine, l'inhibition de la tumeur atteint 97% et l'acide est complètement supprimé sur souris. C'est magnifique. Ici, nous avons le Rovolfia et l'ovaire. Et donc, l'acide est significativement diminué. Et quand on met le carboplatine avec le Rovolfia, le fait ce dernier est remarquablement renforcé et la charge tumorale réduit de 87% à 90% et le volume de l'acide de 89% à 97%. C'est magnifique. En plus, on peut prendre les deux à la fois.
cancer du pancréas et pancréas et pas opéré. Donc à chaque fois ils disent que tout seul ça n'a aucun effet toxique, etc., etc. Et puis ensuite ils ajoutent la gemcitabine ici, qui est la chimiothérapie de choix pour le cancer du pancréas. Et donc on a une diminution pouvant atteindre 70%, même lorsque les cellules ne répondent plus à la chimiothérapie, ce qui est un phénomène échappatoire courant et une complication des cancers. Les gens deviennent résistants aux chimiothérapies. Et même quand ils sont résistants à la chimiothérapie, le petit pas opéré va continuer à marcher. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre espoir. Jamais. Ici, Revolfia et pancréas, et bien là, toutes les métastases sont inhibées par le Revolfia. Et quand on ajoute le Revolfia à la gemcitabine, la charge tumorale et le potentiel métastatique, même quand ça ne répond plus à la gemcitabine seule, sont réduits. Donc, très jolie confirmation au niveau du Paupérera et du Revolfia pulmonaire. Maintenant, les fragments d'ARN. Vous vous souvenez des fragments d'ARN, ces petits fragments qui aident à faire des globules blancs et des plaquettes? Là, on a pu faire un essai clinique. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas occupé du cancer. On a regardé que le niveau de plaquettes. Et le manque de niveau de plaquettes, ça s'appelle la thrombocytopénie. Donc, avec Cancer Treatment Centers of America, qui est une énorme chaîne d'hôpitaux aux États-Unis, on a regardé si des patients qui étaient à la limite de la thrombocytopénie allaient avoir la thrombocytopénie avec les fragments d'ARN. Comment ça se passe en théorie quand un patient reçoit de la chimiothérapie et ne reçoit pas les fragments d'ARN? Ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'au début, vous avez le patient, il commence avec un nombre de plaquettes équivalent à ça. Ça s'effondre avec la chimiothérapie, mais la moelle osseuse est capable de repartir et de refaire un certain nombre de plaquettes. Et puis, nouvelle chimiothérapie, ça s'effondre à nouveau, et puis la moelle osseuse, ben, elle peine un petit peu, mais enfin, elle remonte quand même, et puis nouvelle chimiothérapie, ça s'effondre encore plus bas, et là, elle a du mal à remonter, et puis au bout de quelques cycles, eh ben, elle n'arrive plus du tout à remonter. Et là, ça s'appelle la thrombocytopénie. Quand il n'y a plus assez de plaquettes, eh bien, il n'y a plus de coagulation du sang, il y a des saignements intérieurs, et ça se passe très mal, on est obligé d'arrêter les chimios, etc., etc. Donc, à l'hôpital, ils étaient très intéressés de voir si les petits fragments d'ARN allaient pouvoir aider des patients à avoir tout leur cycle normal de chimiothérapie. Et donc, nous avons eu ici un patient. Il commence, il est déjà très très mal au point. Il a déjà eu 8 chimiothérapies avant. Il est à la limite de la thrombocytopénie, mais il ne l'a pas. Donc, il est éligible. Et on lui donne des fragments d'ARN. Vous voyez, dès qu'on lui donne des fragments d'ARN, le nombre ici de plaquettes est plus haut que là où il a commencé. Puis alors, il a des chimios. Mais à chaque fois, il remonte. Il remonte, il remonte. On lui donne au départ 20 mg de fragments d'ARN. On lui donne 40 mg, 60 mg, 80 mg, il supporte tout très bien. Pas d'effet secondaire, pas de toxicité. Et il continue, et tout se passe très très bien. Un autre patient, toute sa chimiothérapie là, sous fragments d'ARN, à chaque fois ça se passe très très bien, ça se passe très très bien. Puis là, on arrête de lui donner les fragments d'ARN. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que ça descend et que la moelle est capable de remonter. Alors qu'il en est à sa énième chimiothérapie. Ça veut dire que la moelle osseuse, elle était comme protégée pendant toute la durée des chimiothérapies. Et que là, elle part comme si c'était le début d'un cycle normal non protégé. Oui.
Est-ce est-ce qu'il y a des patients qui ont été d'accord de ne, d'arrêter la chimio, de ne prendre que des fragments?
Non, c'était un essai clinique. C'est dans les essais cliniques, on ne leur demande pas ce qu'ils veulent. S'il y a un truc de consent au début, et ensuite, tant que le médecin fait ce qu'il veut. Et c'est comme ça, parce que les gens sont des statistiques dans les essais cliniques, qu'on a pu avoir cette jolie publication qui confirme qu'il n'y a aucun effet secondaire qui est lié au fragment d'ARN. Aucun patient sous fragment d'ARN n'a dû subir de diminution dans leur traitement de chimiothérapie. C'est-à-dire qu'ils ont pu continuer à leur coller des doses maximum. Les fragments d'ARN apparaissent comme stimulateurs de production de plaquettes. Et les fragments d'ARN apparaissent comme protégeants et stimulants le nombre de plaquettes au nadir, c'est-à-dire au moment le plus bas après la chimiothérapie. Je pensais avoir fait tout ce qu'il fallait pour confirmer, reproduire, confirmer tous ces travaux. Et puis, quelque chose de nouveau m'est tombé dessus, si j'ose dire. Et c'est le thé. Le thé, j'avais pas du tout prévu ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand donc le GIGN est arrivé au laboratoire, ils sont arrivés avec trois semi-remorques pour emmener tout ce qu'ils pouvaient. Et puis, ceux qui ne pouvaient pas, ben, ils avaient forcé tous les tiroirs, toutes les armoires, etc. Ce qu'ils ne pouvaient pas était jonché par terre, partout. Et quelques jours donc après le passage de l'orage, un certain nombre de personnes, de volontaires sont venus remettre un peu d'ordre dans les locaux, dont Gilda, justement. Et ils viennent dans le bureau de mon père et c'est une scène de crime, hein, avec du désordre partout. Et à ses pieds, elle trouve une feuille avec l'écriture de mon père. Elle prend un carton, elle essaie de sauver tout ce qu'elle peut trouver qui est sauvable. Et puis à l'époque, on ne sait pas trop quoi faire, hein, en 1996, que faire de tous ces papiers. Elle s'est dit, je vais les mettre à l'abri dans un carton, je vais mettre ça dans un garage, et puis là, on verra ce qu'on peut en faire. Et puis le carton est resté dans le garage pendant 20 ans. Et puis au bout de 20 ans, ben, l'association a assez de payer le garage. Le carton refait surface et là, on décide de me l'envoyer à New York. Et je trouve, quand j'ouvre le carton, je trouve ce papier. Et c'est l'écriture de mon père. Et c'est un message de l'au-delà qui m'arrive 20 ans après sa mort. Et c'est 4 T qui dit, nous avons testé 12 variétés. Et à côté de 4 T, il écrit « très, très anti-C ». En connaissant mon père, anti-C, ça pouvait dire que anti-cancer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de T? Je n'avais jamais entendu parler qu'ils avaient travaillé sur du T. Alors, je demande à ma mère, qui me dit « ah oui, en effet, dans les années 80, on est allé en Chine ». On a travaillé avec ce professeur Niu sur la transcriptase inverse, c'est-à-dire il y a une très jolie publication sur les œufs de poisson, la queue des mutations des œufs de poisson, etc. Et à la fin, ils nous ont donné une très belle boîte d'échantillons dont Mercier d'être venu, une très belle boîte d'échantillons de thé. Et à l'époque, le thé était connu déjà comme antioxydant, mais pas comme anticancéreux. Donc mon père s'est précipité à peine rentré pour tester tous ces thés à l'oncotest. Et c'est comme ça, passé à l'oncotest qu'on ne pouvait plus faire, quand j'ai reçu le papier, que j'ai vu comme ça qu'il y avait 4 T très très anti-C. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, très très? C'est subjectif. Et puis, je le dis tout de suite, c'est tellement difficile de trouver du Pao Pereira, du Revolvia vomitoria, ça vient d'Afrique, ils sont en guerre. Le Pao Pereira, ça vient d'Amazonie, l'Amazonie brûle, il n'y en aura pas pour tout le monde, pas pour toujours. Alors le thé, ça se cultive. Peut-être que c'est la solution de l'avenir.
Et alors d'abord, je commence par essayer de faire ces thés, mélanger les 4 thés en bio. Le goût n'est pas très bon. Hein. Alors je dis, non, on va mettre un peu de thé, de lemon, de citron, de gingembre, de mangue pêche pour essayer de donner un peu de goût à ce mélange acide. Et donc on a fait le thé disponible et vous allez pouvoir le goûter tout à l'heure. Et je me dis surtout, le plus important, qu'on va l'envoyer à Kansas University Medical Center, avec lequel on avait déjà travaillé sur l'ovaire et le pancréas. Et on va leur envoyer, on ne va pas leur dire ce qu'on leur envoie, on ne va rien leur dire, mais on va leur envoyer du Bigalow, du Kousmi, du Lipton, et puis notre mélange de 4 thés qu'on a appris en petit. Cette fois-ci, on va leur demander de tester sur le cancer du sein. On avait... Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est que tous les thés verts, ici, en bio, il hein, faut comparer ces comparables, ils ont tous une inhibition des cellules cancéreuses du sein. Mais l'oncotie est beaucoup plus efficace pour cette inhibition. Et quand on passe aux cellules métastasées, encore plus agressives, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'oncotie est encore plus efficace pour les ratatiner tout. Est-ce que ça reconnaît encore mieux, comme le Pao Pereira et le Ramolfia, les cellules agressives? Alors, on s'est douté qu'on a eu la chance avec les cellules du cancer du sein. On a fait le cancer du foie. On a, cette fois-ci, on a comparé au Lipton, qui est, disons, notre témoin. Et vous voyez que notre oncotie, en quelques heures, ici, il ratatine très joliment les cellules cancéreuses du foie. Alors après ça, on s'est dit, la vessie, c'est important la vessie, parce que c'est quand on boit du thé, c'est là que ça s'accumule. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une très jolie inhibition de toutes les cellules cancéreuses ici, de la vessie. Alors je me suis dit, ce serait quand même bien si on pouvait avoir une action contre le cancer de la peau, parce que dans les cosmétiques, il y a une phase lipidique et puis une phase aqueuse. Alors, si on remplaçait la phase aqueuse par du thé, est-ce qu'on pourrait s'attaquer au mélanome? Pourquoi pas? Hein? Et on a testé sur 4 lignées différentes de mélanome. Et vous voyez, toujours par rapport au lipton, une très jolie inhibition, une très jolie inhibition quelques heures, une très jolie inhibition et une très jolie inhibition de ces 4 mélanomes. Alors, donc ça, c'est le prochain projet pour développer les cosmétiques. Et voici donc la belle publication là qui nous vient et qui parle donc des différents thés sur le développement des cellules cancéreuses. Et je me suis fait un plaisir de vous apporter aussi copie de cette publication. Toutes les publications dont je vous ai parlé ce soir, elles sont toutes disponibles sur benchansky.info. Vous pouvez toutes les imprimer et vous pouvez toutes les apporter à votre médecin pour en discuter avec votre médecin. C'est ce que fait la Fondation. Faire toute cette recherche et la mettre à votre disposition gratuitement. Alors, les publications sont en anglais. Sur le site de benchansky.info, vous avez un petit résumé en français vous expliquant de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Eh bien, parce que, comme le disait mon père, quand on a le pouvoir d'aider, on a le devoir de le faire. Et en tant qu'avocate, je ne me rendais pas compte de la beauté de cette recherche. Mais quand j'ai commencé à m'investir là-dedans, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement passionnant, que j'y ai donné ma vie. Et que je ne le regrette absolument pas. Je considère que j'ai eu une chance exceptionnelle, exceptionnelle de pouvoir servir cette cause. Et c'était un devoir, c'était aussi un bonheur. Et c'est aussi ce bonheur que j'ai maintenant de pouvoir partager ce message avec vous, parce que vous vous en doutez un petit peu, ça me passionne et je ne pourrais pas être plus fière de ce message, de ce que je peux partager avec vous. Mais je voudrais aussi vous dire que c'est tellement important que ce n'est possible que grâce
au don et au financement de cette recherche. Et cette recherche, si vous voulez, elle est unique. Elle est unique, ce genre de résultat sur le cancer avec des produits naturels et non toxiques, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Et ce qui est très, très important sur le plan politique, je parlais de politique de santé, c'est de choisir de faire une recherche qui est au service des gens. La recherche, elle est devenue l'apanage des laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques vont faire une recherche sur des choses qui vont, des molécules qui vont leur rapporter, c'est-à-dire des molécules synthétiques et souvent toxiques parce qu'elles sont synthétiques. Et il n'y a donc de molécules qui ne soient étudiées et recherchées que lorsqu'elles sont toxiques. Vous n'avez pas d'alternative à l'apanage au choix des laboratoires pharmaceutiques, à moins que vous ne financiez ce genre de recherche. Et c'est très très important parce que vous avez toujours, enfin, la tendance est de dire non, non, mais c'est naturel, c'est pas contrôlé, c'est pas vérifié, c'est pas recherché. Si on peut chercher des molécules naturelles avec la même rigueur scientifique que les laboratoires pharmaceutiques, c'est possible si on s'en donne les moyens. Alors, s'il vous plaît, essayez autant que possible d'aider la fondation, et déjà ce soir, en achetant un livre, ce sera déjà un début, puisque tout l'argent va à la fondation. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour toutes les questions.